Le 17 octobre, c'est la fête d'un des plus grands saints de l'histoire de l'Église. Ignace d'Antioche, un des premiers saints de l'histoire de l'Église. Mais il est tellement moderne qu'on dirait que ce qu'il dit vient d'être dit. Et pourtant, ça a presque 2000 ans. C'est d'une très grande puissance. C'est aussi la fête d'un saint Gilbert, ou plutôt bienheureux Gilbert, d'un bienheureux Richard Gwyn, un Gallois, le premier martyr gallois au temps des persécutions, malheureusement, contre l'Église catholique au XVIe siècle. C'est aussi sainte Marguerite Marie à la Coque, cette visitandine, qui n'est pas à l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur, mais qui est une des plus grandes propagandistes, si on peut dire, de la dévotion au Sacré-Cœur. Et ce qu'elle a fait est absolument admirable. Mais je reviens donc à saint Ignace d'Antioche. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ignace d'Antioche était évêque au tout début du IIe siècle, c'est-à-dire que l'Église avait à ce moment-là à peine, disons, une cinquantaine d'années d'existence, quoi. Et aujourd'hui, si on allait pour voir ce qui reste d'Antioche, il reste pour ainsi dire rien. C'était à la charnière, si on peut dire, de la Turquie et de la Syrie actuelle. Et c'est là qu'est Antioche. C'est un nom qu'on entend souvent parce que plusieurs patriarches de différentes églises chrétiennes, aujourd'hui malheureusement divisées ou bien unies à Rome, se réclament d'être patriarches d'Antioche, hein, comme le patriarche Maximus V, qui est le dirigeant de l'église grecque melkite, unie à Rome et reconnaissant le pape. Les Turcs, qui au lendemain de la Grande Guerre 14-18, ont revendiqué cette ville, ils l'ont obtenue, n'ont autorité au fond que sur un nom. Il ne reste plus rien. Quand on est à bord d'un avion, on peut voir l'immense superficie de ces ruines, cette espèce de ville carrefour qui était au centre des échanges commerciaux extrêmement importants. C'était une des très grandes métropoles de l'Empire romain. C'était une charnière, si on peut dire, entre l'Orient et l'Occident. Donc, Ignace était évêque d'une ville extrêmement importante, dont le premier évêque a été, qui donc? Saint-Pierre. Oui, Saint-Pierre était le premier évêque d'Antioche, avant de devenir évêque de Rome et d'établir le siège central de l'Église à Rome. Et c'est d'Antioche, d'ailleurs, que Saint-Paul est parti faire de l'évangélisation en Asie mineure et en Grèce. Quand on dit l'Asie mineure, représentez-vous la Turquie actuelle, grosso modo, là. Ça veut dire la Turquie. Dans le texte de saint Jean, vous savez que saint Jean a connu Ignace d'Antioche. Ils se sont connus tous les deux. Or, dans le texte de saint Jean, qui est le dernier texte de la Bible, l'Apocalypse, on nous fournit le nom de sept villes qui ont un évêque. Et elles sont groupées dans la partie occidentale de ce qu'on appelle l'Anatolie, et Antioche hérite du patrimoine spirituel de Jérusalem, le tout début, croix du christianisme, après que Jérusalem ait été mise à sac par les Romains. Et Antioche devient donc le cœur de l'Église. Je vous signale ça, c'est pour vous dire jusqu'à quel point le siège d'Antioche, qui ne nous dit presque plus rien aujourd'hui, était à l'époque extrêmement important. C'était un des hauts lieux de la foi et de la vie chrétienne, et même que sa liturgie, la façon de célébrer la messe, ça va pénétrer et influencer l'Église grecque. Et c'est à Antioche que Jean Chrysostome, ce grand saint dont je vous ai déjà parlé, exerce son ministère sacerdotal au moment d'être appelé, lui, à gouverner l'Église de Constantinople, qui est le grand poumon de l'Orient chrétien. Donc, Ignace d'Antioche, avec le fameux pape Saint-Clément de Rome, dont j'ai hâte de vous parler, a été le premier grand écrivain de l'Église venu du paganisme. car il est venu, lui, du paganisme et non pas du judaïsme comme les autres, comme ceux qui ont écrit le Nouveau Testament. Il a été préparé dans sa mentalité par les grands philosophes grecs qu'il connaissait. Et on peut dire que de saint Paul, ce juif, très juif et admirable, à Ignace d'Antioche, il y a la même distance, on peut dire, que celle qui pourrait séparer un missionnaire occidental, chrétien, là, qui s'adapte à, disons, la religion des hindous, ou bien d'un hindou, d'un indien, qui se convertit à l'évangile et qui repense le christianisme. Alors, il faut donc comprendre que c'était un apport énorme que la conversion d'Ignace au christianisme, et qui s'est converti vraisemblablement sur le tard. Ignace, qui s'appelle lui-même souvent Théophore, porteur de Dieu. Et c'est d'ailleurs ainsi que débutent ses lettres. Pourquoi je vous parle de ces lettres? C'est que c'est très très important. Les seules archives qui parlent de lui sont des lettres fantastiques qu'il a écrites tout le long d'un long voyage qui l'amenait jusqu'à Rome pour être dévoré par des bêtes, car il avait été condamné à mort. Rares sont les écrits dans l'histoire de l'Église sur une période, je le rappelle, de 2000 ans qui soient aussi éloquents. Ce sont des lettres fabuleuses. Ces lettres révèlent chez cet évêque une personnalité tellement ardente, tellement animé par l'amour de Jésus-Christ qu'on en est encore bouleversé en cette fin du XXe siècle. Un amour qui va jusqu'à la démesure. C'est une démesure sacrée, cependant, qui aspire, chez Ignace, à une identification parfaite. Il veut s'identifier au Christ totalement. Il veut souffrir une passion nouvelle, une nouvelle passion comme le Christ en a souffert une. Il veut être martyr, il le désire, mais dans sa conception, c'est un peu comme une immolation sacrificielle. Mais ça n'entache en rien la beauté de son martyr et la grandeur de sa pensée. Tout chez cet évêque, presque unique dans l'histoire de l'Église, est audacieux. Il se donne, comme je vous ai dit tout à l'heure, à lui-même ce titre de Théophore, c'est-à-dire porte-Dieu, devenu à son tour comme s'il était le corps du Seigneur. Il a une conception déjà très forte du corps mystique. Mais au moment où il déclare qu'il est ce qu'il appelle la rançon de ses frères, il rappelle avec humilité qu'il est le dernier des fidèles. Peut-être parce qu'il vient du paganisme, mais il se sent un peu à part chez tant de juifs qui sont chrétiens au début de l'Église. Et l'expression de sa foi, ben, elle est véhémente. Elle est tonitruante, je dirais même. C'est très, très rare qu'on entend un tel cri. Il est né, donc, au milieu du premier siècle, au tout début du christianisme. Il y en a même qui disent qu'il serait né avant la mort de Jésus-Christ, et dans de vieilles légendes, on prétend que quand Jésus dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » et qu'il prend un petit enfant dans ses bras, ça aurait été Ignace d'Antioche. Évidemment, ce sont des légendes. Mais c'est une charmante légende, c'est un peu pour signifier jusqu'à quel point cet Ignace d'Antioche est très près de la passion de Jésus-Christ au point de vue du temps, de l'histoire. Et l'aventure d'Ignace est semblable à celle de Jésus-Christ. Elle le conduit donc à Rome pour y subir le martyr qu'on peut relater à partir de ses lettres, qui sont aujourd'hui considérées absolument comme authentiques. On a craint qu'elles ne soient pas authentiques, mais aujourd'hui, tous les plus grands spécialistes, les plus grands historiens s'entendent pour le dire qu'elles sont authentiques. Il avait été arrêté, Ignace d'Antioche, lors d'une persécution contre les chrétiens, à Antioche même, au temps de l'empereur Trajan, qui a régné de l'an 98 à l'an 117. Alors il est donc transféré de la Turquie ou de la Syrie jusqu'à Rome pour y être, comme je vous ai dit tout à l'heure, dévoré par des bêtes devant le public. D'autres condamnés, d'ailleurs, l'accompagnent. Ils sont placés avec lui sous la surveillance d'un détachement de soldats. Et le voyage est long, d'autant plus qu'Ignace séjourne au passage dans certaines villes où il est accueilli par des communautés chrétiennes, puis on lui permet de s'adresser à ces communautés. Certaines expressions de ses lettres, dans lesquelles il se traite d'avorton, laisse entendre qu'il s'était converti plutôt tard. Et malgré les bas sentiments qu'il avait de lui-même, il a été élevé au siège d'Antioche pour succéder à Saint Évode, E-V-O-D-E, qui a été le premier évêque de cette ville après Saint-Pierre. On peut pas dire exactement en quelle année. Ignace d'Antioche paraît bien avoir manifesté les grandes qualités d'un véritable évêque, un évêque idéal, d'un vrai soldat de Jésus-Christ, toujours prêt à soutenir le bon combat. L'évêque fut l'une des grandes victimes de cette persécution sous Trajan. C'est peut-être la plus grande des victimes de Trajan. Et on se demande si ce n'est pas la seule grande victime. De toute façon, conduit d'Antioche à Rome pour être livré aux bêtes dans l'amphithéâtre, c'est grâce à ses épîtres qu'on peut obtenir des renseignements absolument sûrs sur les dispositions qui l'animaient, puis sur l'enseignement de sa doctrine. Les conditions dans lesquelles Ignace d'Antioche a dû faire le voyage d'Antioche à Rome ont été extrêmement pénibles. C'était sous un climat extrêmement chaud. Il faisait terriblement chaud. Il en fait la description dans une lettre qu'on appelle la lettre aux Romains, ne pas confondre avec l'épître aux Romains dans le Nouveau Testament. Et on peut lire ces textes, ils sont publiés aujourd'hui dans Sources chrétiennes. On peut trouver ça en librairie. Voici des citations de sa lettre aux Romains. « Depuis la Syrie jusqu'à Rome, sur terre et sur mer, de nuit et de jour, je combats déjà contre les bêtes. Enchaîné que je suis à 10 léopards, je veux parler des soldats qui me gardent et qui se montrent d'autant plus méchants qu'on leur fait plus de bien. Leurs mauvais traitements sont pour moi une école à laquelle je me forme tous les jours, mais je ne suis pas pour cela justifié. » Or, sur le parcours, les soldats devaient recueillir d'autres prisonniers, ceux qui étaient condamnés pour des raisons semblables, et arriver au cœur même de l'Asie mineure, de la Turquie, si on peut dire, de l'ensemble de ces pays-là, là, à Philadelphie, l'évêque d'Antioche, il constate qu'il y a certaines divisions dans le clergé. Aussitôt, il demande aux Philadelphiens de rester étroitement unis à leur évêque. C'est un évêque profondément centré sur l'unité de l'Église. Il écrit d'ailleurs aux Philadelphiens, « Cet évêque, en parlant de leur évêque à eux, cet évêque, c'est la charité de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il l'a investi, c'est la charité de Dieu qui l'a investi du gouvernement de la communauté. Sa conduite est en harmonie avec la loi de Dieu, comme la lyre avec ses cordes. Fuyez donc les divisions et les doctrines pernicieuses. Suivez partout votre pasteur comme des brebis. C'est pour moi, ajoute-t-il, une joie extrême de travailler à votre affermissement, non pas moi, mais Jésus-Christ. Chargé de faire pour son nom, je suis moins rassuré que jamais, car je me sens encore si éloigné de la perfection. Mais vos prières achèveront de me rendre digne de Dieu et de l'héritage qu'il m'a préparé dans sa miséricorde. Et Ignace d'Antioche ajoute, « Pendant que j'étais parmi vous, j'ai dit bien haut d'une voix qui était la voix même de Dieu, « Tenez-vous étroitement unis à votre évêque, au presbytre, c'est-à-dire au prêtre, et au diacre. Aimez l'unité, fuyez les divisions, soyez les imitateurs de Jésus-Christ, comme il l'est lui-même de son Père. » C'est d'une grandeur, hein, c'est d'une grande richesse, les textes de Saint Ignace, comme vous voyez. Alors, le convoi de prisonniers, où il est le principal prisonnier, a suivi probablement la route qui passait par Sardes, toujours en Asie mineure, en Turquie, et qui aboutissait à Smyrne. Smyrne, ça s'appelle aujourd'hui Izmir. C'est un grand port turc sur la mer Égée. Et Ignace d'Antioche semble avoir fait dans la ville de Smyrne une halte assez longue. Saint Polycarpe, qui était évêque, qui était un des grands saints de l'Église, c'était d'ailleurs un disciple de Saint Jean, lui aussi. Et son Église, donc à Smyrne, Polycarpe et son Église ont fait un accueil cordial et même enthousiaste à Ignace d'Antioche. Des délégués même des diverses communautés qui venaient d'Éphèse, de Magnésie, de Thrale aussi, ce sont des villes importantes qui n'étaient pas trop éloignées, sont venus saluer Ignace et lui prodiguer leur consolation. Et Ignace, en réponse, adresse de la ville de Smyrne une lettre à chacune de ses églises. Nous les avons, ces lettres admirables. Aux Éphésiens, il écrit, voici ce qu'il écrit. « C'est vous tous que j'ai reçu au nom de Dieu, en la personne d'Onésime, homme d'une charité inexprimable, et votre évêque. » Par charité, je vous exhorte à marcher d'accord avec l'Esprit de Dieu. N'ayez avec votre évêque qu'une seule et même pensée, comme vous le faites d'ailleurs. Votre vénérable presbytre, vraiment digne de Dieu, est uni à l'évêque, comme les cordes à la lyre. Et c'est ainsi que du parfait accord de vos sentiments s'élève vers Jésus-Christ un concert de louanges. Je sais qui je suis et à qui j'écris. « Oh, je suis un condamné, et vous avez trouvé miséricorde. Je suis en danger, et vous êtes en sécurité. Vous êtes le chemin de passage pour ceux qui vont à Dieu par le martyr, les confidents des révélations de Paul, sur les traces duquel je voudrais avoir marché quand j'arriverai devant Dieu. Et c'est donc de Smyrne que je vous écris, rendant grâce au Seigneur et aimant Polycarpe, votre évêque, comme je vous aime vous-même. » Il écrit aussi aux Magnésiens, « J'ai eu l'honneur de vous voir en la personne de Damas, votre saint évêque. Sa jeunesse ne doit pas être pour vous le prétexte d'une trop grande familiarité. C'est la puissance même de Dieu le Père que vous devez pleinement révérer en lui. » Il y avait une conception d'épiscopat extraordinaire, hein? Mais après leur avoir prêché l'union, l'éloignement pour les doctrines étrangères, l'attachement ferme, très ferme, aux préceptes du Seigneur Jésus et des apôtres, eh bien, il conclut, « Dans vos prières, souvenez-vous de moi, pour que j'arrive à Dieu. Souvenez-vous aussi de l'Église de Syrie, dont je ne suis qu'un membre indigne. » Il ajoute, « Je sais votre droiture de cœur et votre inaltérable patience, écrit-il aux Thraliens qui sont en Lydie, c'est en Turquie, ça. La joie que m'inspirent les chaînes que je porte pour Jésus-Christ. » C'est beau. Je sais des petits passages comme ça parce que c'est un peu long. D'ailleurs, il met une grande insistance sur le respect qui est dû au degré de la hiérarchie dans l'Église. Car, dit-il, l'union à Jésus-Christ, à l'évêque, la soumission aux préceptes des apôtres préserve de l'hérésie. Aimez-vous tous les uns les autres, dit-il en terminant, priez aussi pour moi, j'ai besoin de votre charité et de la miséricorde de Dieu pour être admis à l'héritage que je suis tout près d'obtenir. Et alors, de Smyrne, toujours Ignace a écrit aussi à l'église de Rome, hein, à l'église qui préside dans la capitale des Romains, église sainte parmi toutes, vénérable, bienheureuse, digne d'éloges et de succès, église toute pure, qui préside à la charité et qui a reçu la loi du Christ et le nom du Père. D'ailleurs, Ignace d'Antioche craignait que les chrétiens de Rome, en ayant des influences auprès des autorités politiques, ne l'empêchent de gagner ce qu'il appelle la couronne du martyr. Il écrit aux chrétiens de Rome, il voulait vraiment être martyrisé, il écrit « Ce n'est pas la faveur des hommes que je vais vous voir rechercher, mais celle de Dieu, qui d'ailleurs vous est acquise. Jamais je ne retrouverai une pareille occasion d'aller à Dieu, et vous-même, vous ne sauriez attacher votre nom à une meilleure œuvre qu'en vous tenant tranquille. Votre silence à mon sujet fera de moi une parole de Dieu, c'est-à-dire en me laissant aller à Dieu par le martyr, je deviendrai une parole de Dieu, un témoin, un porte-parole de Dieu. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de laisser offrir à Dieu la libation, l'offrande de mon sang, tandis que l'autel est encore prêt. Laissez-moi devenir la pâture des bêtes. C'est par elle qu'il me sera donné d'arriver à Dieu. » Et il écrit ce texte qu'on répète souvent quand on parle d'Ignace d'Antioche. « Je suis le froment de Dieu. Que je sois moulu par la dent des bêtes pour devenir le pain immaculé du Christ. » Et il ajoute ceci qui est très étrange. « Caressez plutôt ces bêtes, et là, afin qu'elles soient mon tombeau et qu'elles ne laissent rien subsister de mon corps. Mes funérailles ne seront ainsi à charge à personne. » Et c'est un humour presque anglais. C'est très, très curieux à lire. C'est merveilleux. Je trouve ça de toute beauté. Il ajoute, « Priez le Christ de daigner faire de moi, par la dent des fauves, une victime pour Dieu. Je ne vous donne pas des ordres comme Pierre et Paul, ils étaient des apôtres. Et moi, je ne suis qu'un condamné. Ils étaient libres, et moi, jusqu'à présent, je suis esclave. Mais la mort fera de moi un affranchi de Jésus-Christ, en qui je ressusciterai libre. Pour le moment, j'apprends dans les fers, parce qu'il était enchaîné, j'apprends dans les fers à ne rien désirer. Quand donc serai-je en face des bêtes qui m'attendent? Puissent-elles se jeter aussitôt sur moi? Au besoin, je les flatterai pour qu'elles me dévorent sans retard et qu'elles ne fassent pas comme pour certains qu'elles ont craint de toucher. » Car on raconte que dans certains cas, des bêtes, probablement rassasiées, ne touchaient à aucun martyr alors ces bêtes étaient laissées libres dans l'arène. Et tout le monde attendait qu'ils dévorent les chrétiens et ils ne dévoraient personne. Ignace d'Antioche ajoute que si ces bêtes y mettent du mauvais vouloir, je les forcerai. De grâce, laissez-moi faire. Je sais ce qui m'est préférable. C'est maintenant que je commence à être un vrai disciple. Qu'aucune créature visible ou invisible ne cherche à me ravir la possession de Jésus-Christ. Que les plus cruels supplices tombent sur moi, pourvu que je possède enfin Jésus-Christ. C'est ça qui est très beau chez Ignace, c'est cet amour pour Jésus. Pourvu que je possède enfin Jésus-Christ. Et il ajoute une parole qui nous fait penser à saint François Xavier. Et à cette parole que les jésuites ont répétée et répétée et qu'ils nous répétaient au collège Brébeuf quand j'étais jeune. Et que me servirait la possession du monde entier? Je ne veux plus vivre de cette vie terrestre. Or, la réalisation de mon vœu dépend de votre bonne volonté. Montrez-en donc à mon égard. Ces quelques mots vous transmettront ma prière et croyez à mes paroles. Jésus-Christ fera éclater à vos yeux la sincérité de mon cœur. Lui, et c'est très beau ce qu'il dit de Jésus-Christ ici, lui, la bouche infaillible par laquelle le Père a vraiment parlé. Je répète, la bouche infaillible
par laquelle le Père a vraiment parlé. Priez pour que je réussisse. Ce n'est pas la chair qui m'a dicté cette lettre, c'est l'Esprit de Dieu. Mon martyre sera la preuve de votre bienveillance et le refus de m'y admettre, l'effet de votre haine. Quant à ceux qui m'ont précédé de Syrie à Rome pour la gloire de Dieu, ils vous sont maintenant connus, je pense. Annoncez-leur ma prochaine arrivée. Ils sont tous dignes de Dieu et dignes de vous. Il vous convient de les soulager dans tous leurs besoins. Oh, je vous écris le 9e jour avant les calendes de septembre. On a fait le calcul, ça veut dire que c'était le 24 août. Vous voyez, en plein mois d'août, il faisait ce trajet épouvantable sous la chaleur effrayante. Et les gardes pressaient Ignace de quitter Smyrne, car il fallait arriver à Rome avant la fin des Jeux. Et cette hâte, c'était pas pour lui déplaire. Il soupirait vraiment après le martyr. Et là, on est monté à bord d'un bateau, on a tendu les voiles pour se rendre à Troas. Et dans cette ville, Ignace a appris avec joie que la persécution avait pris fin en Syrie, d'où il venait. Alors il a écrit deux lettres, l'une aux Philadelphiens, puis l'autre aux habitants de Smyrne, les Smyrniotes. Et ce sont des recommandations ordinaires qui concernent le dogme, la discipline, la soumission à leurs pasteurs, à leurs évêques, et de très beaux textes sur la Sainte Eucharistie, sur la messe, et la mise en garde aussi contre l'erreur des gens qu'on appelait les docètes. Déjà, il y avait des schismes, les docètes qui voulaient tout réduire à une simple apparence chez le Christ, dénuée de réalité, que le Christ n'était que dans une espèce d'apparence. Et nous verrons par la suite comment, obligé de quitter Troas précipitamment, ben Ignace a trouvé le temps d'encourager saint Polycarpe à bien remplir sa mission et à veiller sur son église d'Antioche pour lui assurer un pasteur pour lui succéder, puis à écrire des lettres aux églises qui se trouvent entre Smyrne et Antioche. Nous sommes de retour à Rencontre spirituelle en compagnie d'Ignace d'Antioche, qui m'a toujours passionné. Je retrouve dans ma bibliothèque un livre que je vous recommande, si vous pouvez le trouver. C'est le guide pratique des pères de l'Église du père Aman, H-A-M-M-A-N, Aman. C'est un franciscain qui m'avait remis son livre, oh mon Dieu, en 1967, à Noël, et je l'avais lu à l'époque, et j'y avais lu des choses absolument admirables, très beaux textes sur les pères de l'Église, et en particulier sur Ignace d'Antioche au début du livre. Et il y avait cette citation que je tiens à vous lire avant d'entreprendre la suite du récit. Il écrit « Le prince de ce monde veut m'arracher à Dieu et altérer les sentiments que j'ai pour lui. Spectateur, au pluriel, spectateur de la lutte, qu'aucun de vous n'aille prêter main forte au démon, prenez plutôt parti pour moi, c'est-à-dire pour Dieu. » Et il écrit cette phrase admirable, « N'ayez pas Jésus-Christ dans la bouche et le monde dans le cœur. » N'ayez pas Jésus-Christ dans la bouche et le monde dans le cœur. C'est extraordinaire. Hein? C'est écrit ça vers l'ensemble. Loin de vous l'envie. Si quand je serai parmi vous, il m'arrive de vous supplier, ne m'écoutez pas, faites plutôt ce que je vous écris aujourd'hui, car c'est en pleine vie que je vous exprime mon ardent désir de la mort. Mes passions terrestres ont été crucifiées, et il n'existe plus en moi de feu pour la matière. Il n'y a qu'une eau vive qui murmure au-dedans de moi et me dit « Viens vers le Père ». Voyez-vous, c'est de là que vient ce terme « Viens vers le Père ». C'est surprenant, hein? Tout le monde a entendu ces mots « Viens vers le Père » dans la catéchèse moderne. Ignace s'ajoute « Je ne prends plus de plaisir à la nourriture corruptible ni aux joies de cette vie. Ce que je veux, c'est le pain de Dieu. » Le voulons-nous, le pain de Dieu, comme lui, hein? « Ce que je veux, c'est le pain de Dieu, ce pain qui est la chair de Jésus-Christ, le fils de David. » et pour breuvage je veux son sang, qui est l'amour incorruptible. C'est très beau, ça. Je veux son sang qui est l'amour incorruptible. Je vous ai déjà expliqué ça en vous disant que le corps et le sang de Jésus, c'était le corps et l'âme selon la mentalité juive, et l'âme c'est le siège de l'amour. Pour breuvage, je veux son sang qui est l'amour incorruptible. Quel homme extraordinaire que c'est, Ignace d'Antioche. Donc, de Troas, notre prisonnier arrive en Macédoine. De là, Chrétien également, dirigé sur Rome, sont ajoutés au groupe. Là, les fidèles de Philippe en Macédoine ont escorté jusqu'à une certaine distance tous ces captifs qui sont chargés de chaînes. Alors, on a traversé l'Adriatique en bateau. Et arrivé en vue de Pouzole, Ignace d'Antioche a demandé la permission de descendre à terre car il désirait marcher sur les pas de saint Paul. Il voulait suivre ses traces, mais un coup de vent a repoussé le vaisseau en pleine mer. Il a passé outre, il n'a pas pu. Alors là, le vent tourna et après un jour et une nuit, ils ont atteint l'embouchure du Tibre, du fleuve. Et à peine débarqué, bien Ignace a pris le chemin de Rome. Et là, le bruit de son arrivée l'a devancé de partout. Et là, les chrétiens venaient en foule sur son passage pour le saluer. Et le temps pressait. Et là, les victimes devaient être rendues à Rome pour les grandes solennités païennes. Et la ville entière a couru à l'amphithéâtre. Et les spectateurs étaient avides de voir couler le sang du martyr. Et Ignace, livré à deux lions, a été dévoré en un instant. Et les lions ont laissé seulement les ossements principaux de son corps, de gros ossements, qui ont été recueillis, ce furent les reliques, qui ont été vénérées par les chrétiens depuis ce temps. On calcule qu'il serait peut-être mort le 20 décembre de l'an 107. D'autres disent de l'an 110. On n'est pas trop sûr. Revenons donc aux lettres qu'il a laissées, qui sont des documents extraordinaires. Je vous en ai lu des extraits, et ils sont regardés, je vous le rappelle, comme l'œuvre authentique d'Ignace d'Antioche, écrit au tout début de l'Église. Et ces lettres fournissent les renseignements les plus sûrs concernant sa vie, concernant surtout la doctrine catholique de l'époque et les dispositions intimes de ce saint martyr, qui fut en même temps un grand apôtre de la vérité. Et c'est à bon droit qu'on a rangé Ignace d'Antioche au nombre des pères de l'Église apostolique, l'Église des premiers temps. Ignace se montre vraiment un disciple de saint Paul, dont il connaît à fond, c'est évident, toutes les épîtres. Il combat les attaques que mènent certains juifs qui, évidemment, sont contre ce christianisme qui leur semble être une secte, un mythe. Alors, il combat le judaïsme et aussi, à l'intérieur du christianisme, les judaïsants, ceux qui voudraient que les chrétiens soient, pour ainsi dire, comme des juifs, plutôt qu'une religion vraiment universelle. Mais il concentre ses efforts, Ignace, sur deux points, qui sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la hiérarchie ecclésiastique, puis la réalité de la nature humaine en Jésus-Christ, en opposition, comme je vous ai dit tout à l'heure, à ce qu'on appelle le docétisme. Nous sommes privilégiés, nous, au XXe siècle. La nature humaine de Jésus-Christ nous apparaît comme une évidence si on s'intéresse le moindrement, non seulement à ce qui nous est dit par la grande tradition chrétienne, mais aussi, je le répète, par le Saint-Suaire de Turin. Quand on contemple le linceul du Christ,
quand on contemple linceul dans toute son étendue. On voit bien le corps du Christ de face et de dos. Et il est évident, comme le disent des incroyants comme André Castelot, ce grand historien que j'avais interviewé dans un film que j'ai fait à Paris, aux États-Unis, en Angleterre et en Italie, un film sur le Saint-Suaire, bien André Castelot déclare que, bien qu'incroyant, il est évident pour lui que sur le linceul de Turin, c'est le corps de Jésus qui est imprimé en négatif et qui nous a été révélé en 1898 par la photographie, car en le photographiant, on a pu voir apparaître en positif, comme une véritable photo, tout le corps de Jésus. Et ainsi, on peut voir l'humanité de Jésus. On peut voir, évidemment, ses traits, ses épaules, ses bras, et tout son corps. Et on peut voir, évidemment, les plaies de la passion. Et ainsi, il serait bien difficile pour nous de tomber dans ces hérésies du tout début de l'Église, le docétisme, qui niait la nature humaine de Jésus, mais que Jésus n'était qu'une espèce d'apparition. Il affirme d'une façon très nette, Ignace, la divinité de Jésus-Christ. Il le dit, il le répète et il l'affirme. Et pour lui, l'Eucharistie, bien c'est un antidote contre la mort, c'est un remède d'immortalité. Et quand il désire recevoir l'Eucharistie, c'est qu'il désire devenir vraiment immortel. Je vous ai parlé des ossements d'Ignace d'Antioche. Ils furent amenés à l'intérieur de la ville d'Antioche. Ils ont été placés dans l'ancien temple païen de la fortune qui avait été transformé par les chrétiens d'Antioche en basilique. On a parlé d'une translation, une autre translation des restes d'Ignace d'Antioche qui se serait faite d'Antioche à Rome. On trouve ça dans le vieux martyrologe romain au 17 décembre qui dit que les reliques d'Ignace d'Antioche auraient été déposées dans l'église de Saint-Clément. Très belle église où les mosaïques sont magnifiques. C'est une très vieille église à Rome. Il faut visiter Saint-Clément. Hein. C'est superbe. Elle a été endommagée durant la guerre, mais elle a été bien réparée. La dernière guerre. Cette dernière translation des restes d'Ignace d'Antioche aurait eu lieu sous le règne d'Héraclius. Héraclius, c'est à l'époque où Antioche est tombée au pouvoir des musulmans qui ont conquis dès le début de cette religion, la ville d'Antioche, la Syrie, la Turquie, et qui ont transformé ces grands pays chrétiens en pays musulmans en très peu de temps. C'est une triste histoire sur laquelle je préfère ne pas trop m'étendre. La lutte contre les gens qui mettaient en doute la réalité de l'incarnation de Dieu, de sa passion et de la résurrection du Christ, je vous l'ai dit, ça tient une place centrale dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Prenez, touchez-moi, et voyez que je ne suis pas un espèce de démon corporel, dit Ignace d'Antioche en parlant de Jésus, comme si Jésus avait dit ces paroles exactement. C'est pas tout à fait ça qu'il a dit, hein. Il dit à saint Thomas, « Mets ta main dans mes plaies, vois, j'ai un corps. » Et pour lui, pour Ignace, c'est très important, ces paroles. L'un des textes les plus fascinants et le plus souvent cité par les pères représente l'incarnation selon un schéma de révélation tout en préservant l'historicité de l'événement de l'incarnation de Dieu. L'ignorance, comme on dit, du prince de ce monde, est opposée cette illumination libératrice que reçoivent les croyants en croyant vraiment à l'incarnation. Car la manifestation de Dieu dans le Christ provoque une espèce de bouleversement cosmique dont a beaucoup parlé Teilhard de Chardin, mais dont a parlé aussi saint Paul. Il faut bien se mettre ça au cœur de notre foi chrétienne, que quand le Christ arrive, et c'est comme ça qu'on compte les années quand on dit 1995, c'est à partir du moment où le Christ se manifeste à Bethléem en naissant. Cette épiphanie, cette manifestation de Dieu, je le rappelle, ça provoque un bouleversement cosmique. Ça modifie de fond en comble la situation de l'homme et du monde. Nous ne sommes plus les mêmes. C'est l'irruption d'une nouveauté sans pareil. Ça abolit les liens du mal et de l'ignorance. Nous sommes illuminés par le Christ. Et on le voit bien chez Ignace d'Antioche. C'est pour ça que je vous parle de ça. C'est parce que dans les textes et les lettres d'Ignace d'Antioche, on sent cette illumination qui envahit cet homme et qui en fait, comme il le dit lui-même, un théophore, un porteur de Dieu. C'est un des plus grands saints des tout débuts de l'histoire de l'Église. On l'a comparé à saint Paul et on a dit qu'il est un des phares. C'est un des plus grands saints. Je le dis, je le répète. L'éloge de saint Ignace d'Antioche a été prononcé plusieurs siècles plus tard par saint Jean Chrysostome, qui prêchait à Antioche même de 386 à 397. C'est un très bel exemple d'éloquence sacrée que saint Jean Chrysostome a fait en parlant d'Ignace d'Antioche. Il renseigne moins sur la personnalité d'Antioche que vraiment sur le développement de toute l'histoire qui s'est faite autour de lui et surtout du culte qui lui a été accordé dès le début comme un des grands saints. Le discours de Jean Chrysostome utilise évidemment des procédés typique des grands discours de saint Jean Chrysostome. Il y a une espèce d'amplification dans tout ça. Mais il ne faut pas craindre de le lire, parce qu'il y a de très belles choses. Car il rappelle qu'il a été choisi par les apôtres eux-mêmes comme évêque d'Antioche. Ignace d'Antioche, selon saint Jean Chrysostome, a eu l'honneur de succéder à Pierre, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait été le premier évêque d'Antioche, à qui Dieu avait confié les clés des cieux, dit saint Jean Chrysostome. Et sa force a été telle qu'il a pu compenser l'absence du fondateur. Ignace, on dit de lui que ses mérites sont d'autant plus grands que la tâche de l'évêque était alors extrêmement difficile parce qu'il y avait des persécutions, puis aussi la foi des gens était très fragile à cette époque, comme elle est devenue fragile aujourd'hui. Et Ignace d'Antioche a surmonté les tourments ressentis par saint Paul devant tous ces chrétiens qui allaient dans toutes les directions, parce qu'ils venaient de quitter le paganisme, alors ils croyaient à différentes choses qu'on enseignait ici et là. Un peu comme aujourd'hui, certains chrétiens vont écouter n'importe quel prophète, pseudo-prophète, pour croire n'importe quoi. Or, il lui fallait des qualités exceptionnelles à cet Ignace d'Antioche pour recevoir la charge d'une cité aussi importante qu'Antioche, ville extrêmement vaste et remplie d'hérésies et de choses un peu comme Montréal l'est aujourd'hui. Et comme notre archevêque, le cardinal Turcotte, doit affronter, comme Ignace d'Antioche, il doit affronter les mêmes problèmes. Il entend n'importe quoi. Il le sait, il est au courant. Et ce n'est pas facile. La tradition chrétienne est restée fascinée par la relation très, très personnelle d'Ignace d'Antioche avec le Christ. La tradition a été frappée par cette espèce de trajectoire fulgurante de cet évêque. Une trajectoire non seulement où il va à pied à travers l'Empire romain, mais une trajectoire théologique, une trajectoire de la pensée absolument phénoménal. Il périt à Rome sur la dent des bêtes. Il a magnifié son aventure en inventant une espèce d'affrontement. Et il parle de son affrontement constamment tout au long. Il l'invente, il le triture, il en parle avec une foi débordante. La tradition a vénéré en Ignace d'Antioche un familier des apôtres, l'un des tout premiers évêques, aux origines de la fameuse église d'Antioche, puis elle a retenu ses exhortations à célébrer le culte eucharistique. Quand il parle de l'Eucharistie, il en parle de façon vraiment admirable. Il dit des choses qui sont si belles. Et voici un texte où il rend grâce à Jésus-Christ. C'est un de ses plus beaux textes. Il dit, « Oui, oui, je rends gloire à Jésus-Christ notre Dieu pour la sagesse qu'il vous inspire. J'ai pu constater, en effet, que vous êtes tous unis dans une foi inébranlable. Vous êtes, pour ainsi dire, cloués, corps et âme, à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes affermis dans la charité par le sang du Christ. » Voilà, il revient toujours sur l'Eucharistie. « Affermis dans la charité par le sang du Christ. » Vous avez, ajoute-t-il, je le sais, la ferme conviction que notre Seigneur est bien réellement le descendant de David selon la chair, qu'il est le Fils de Dieu par la volonté et la puissance divine, qu'il est véritablement né d'une vierge, qu'il a reçu le baptême des mains de Jean pour accomplir toute justice, qu'il a été réellement percé de clous pour nous en sa chair. C'est au fruit de sa croix, ajoute Ignace d'Antioche, à sa sainte et divine passion que nous devons la vie. C'est ainsi que par sa résurrection, il a levé son étendard sur les siècles pour rassembler ses saints, ses fidèles, tant du judaïsme que du monde païen, en un seul et même corps, en son Église. C'est pour nous vraiment, pour notre salut, qu'il a enduré toutes ses souffrances. C'est réellement qu'il a souffert, comme c'est réellement qu'il s'est ressuscité lui-même. Si c'est seulement en apparence que notre Seigneur a accompli ses diverses actions, ce n'est aussi qu'en apparence que moi-même je suis aujourd'hui chargé de faire. Alors, pourquoi me suis-je voué à la mort par le feu, le glaive ou les bêtes? Mais être près du glaive, pour moi, c'est être près de Dieu. Être au milieu des bêtes, c'est être avec Dieu, pourvu qu'on souffre tout cela pour le nom de Jésus-Christ. C'est pour m'associer à sa passion que j'endure tout. C'est lui qui m'en donne la force. Lui qui s'est fait complètement homme. En lisant de tels textes, on se demande comment il se fait qu'on entende moins de si belles choses aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le goût de lire la dernière prière de la messe d'aujourd'hui à Ignace d'Antioche. Seigneur Père, par cette communion au pain du ciel, reçue en la fête du saint évêque d'Antioche, donne-nous des forces neuves pour qu'en voyant nos actions, on nous juge dignes d'être appelés chrétiens. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.